Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du Maghreb des livres qui se tient samedi et dimanche à l'Hôtel de Ville de Paris et dont l'invité d'honneur de cette 31e édition est l'Algérie, je reçois aujourd'hui une des invitées de la manifestation qui est aussi la marraine, Maïssa Bey. Bonjour.
Bonjour.
Romancière, nouvelliste, autrice de théâtre également, vous avez publié récemment dans la collection D'un espace l'autre aux éditions Chèvrefeuille étoilée, maison que vous avez cofondée, un essai en hommage, en famage peut-être, oui, devrais-je dire, à une autre grande voix de la littérature algérienne, Assia Djebbar.
Je suis un écrivain et je suis féministe parce que je suis algérienne. Je dis en Algérie, même une pierre devient féministe devant l'oppression. Donc je ne me sens pas dans une avant-garde.
La voix d'Assia Djebbar, que l'on vient d'entendre dans une archive diffusée en 2015 au moment de sa mort, et des propos toujours d'actualité. Comment témoigne votre texte, Maïssa Bey, qui décrit cette femme écrivant, pour citer son titre, car c'est ainsi qu'elle se présentait. Avant de revenir aux liens nombreux que vous avez avec cette figure majeure de la littérature, de l'Algérie et du féminisme, est-ce que vous voulez bien nous faire le portrait en quelques mots d'Assia Djebbar ?
Assia Djebbar est une véritable figure de la littérature algérienne et qui, à mon sens, est un petit peu laissée de côté. On évoque souvent les pères fondateurs de la littérature algérienne. Par exemple, Mohamed Dib, Kateb Yassine, Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun. Ce sont ceux dont on connaît les noms et qui sont cités régulièrement.
Dont elle était contemporaine, d'ailleurs.
Et elle était contemporaine. Pour la plupart, elle les a connus et fréquentés. Assia Djebbar est souvent mise de côté. Quand on connaît son parcours, quand on connaît la force et la beauté de son écriture, on est amené à se poser des questions sur cette place particulière qu'elle a, parce qu'elle n'était pas seulement écrivaine. Elle a quand même réalisé des films, elle était poète, elle a écrit un opéra, et toutes les récompenses prestigieuses qu'elle a reçues. Et c'est une figure qui est très peu évoquée. Moi, je parle de l'Algérie où je vis, que je connais très très bien. Il a fallu, malheureusement, sa mort pour qu'on commence à parler d'Assia Djebbar, l'académicienne, première femme africaine introduite à l'Académie française. On est reparti sur un petit peu les traces de cette femme qui a, pour moi en tout cas, énormément compté, et depuis très très longtemps, depuis que j'étais adolescente.
Ça, nous allons en parler en effet avec vous, Maïssa Bey. Quelques éléments biographiques. Rappelez qu'elle était née en 1936, donc à Cherchel, ancien Césarée, cette petite ville côtière d'Algérie, que son vrai nom était Fatima Zora, que c'était la fille d'un instituteur et que c'est grâce d'ailleurs à la volonté de son père qu'elle va suivre des études supérieures en France où elle fait des études d'histoire. Elle publie un premier roman à 20 ans, en 1957, La Soif, qu'elle publie donc sous le pseudonyme d'Assia Djebbar. Et puis, très vite, une quinzaine de romans, des nouvelles, une pièce de théâtre, un recueil de poèmes, un opéra, donc créé à Rome en 2005. Et puis, effectivement, ses récompenses, le prestigieux prix de la paix à Francfort en 2000, élu à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique et à l'Académie française en 2005. Elle a également enseigné aux États-Unis et donc elle est morte à Paris en 2015 à l'âge de 79 ans. Et donc Maïssa Bey, vous l'avez rencontrée. Alors ce premier lien, toutes les deux, donc fille d'instituteur, est-ce que pour vous c'était un signe, un point commun qui vous a touché d'emblée?
Ah oui, dès que j'ai appris cela, j'étais un petit peu impressionnée par la similitude, parce que il faut savoir qu'à l'époque où Assia Djebbar vivait, il y avait les jeunes filles en tout cas algériennes, les indigènes comme on les appelait autrefois, n'allaient à l'école que jusqu'à un certain âge. Que son père lui permette d'aller à l'école et ensuite dans un lycée en internat en plus. Elle est allée dans un lycée à Blida, continuer à faire des études supérieures et aller en France pour... C'était un parcours quand même vraiment exceptionnel. Exceptionnel, et c'est ce parcours qui m'a un petit peu impressionnée. Bon, moi je suis née plus tard, bien entendu, mais cette similitude dans les parcours m'a bouleversée parce que je l'avais découverte en tant qu'écrivaine et je ne connaissais pas sa vie. C'est bien plus tard que j'ai découvert tous ces aspects, tous ces moments de sa vie.
Cette petite main d'enfant qui est dans la main du père, qui l'emmène à l'école, vous aussi, vous l'avez
exactement
vécu, Maïsabé.
Oui, tout à fait. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à la mort de mon père. Oui.
Parce que, effectivement, on va parler un instant d'un autre livre, un recueil qui s'intitule « Enfance de fille », qui est apparu aussi aux éditions Chèvrefeuille étoilée et qui est un ouvrage collectif du Parlement des écrivaines francophones dont vous faites partie. Et parmi les récits des 22 autrices, il y a le vôtre, celui d'une petite fille de 6 ans qui, après la mort de son père instituteur, intègre une nouvelle école. Mais au début, ça ne se passe pas bien du tout. C'est écrit à la troisième personne du singulier, non pas à la première. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Samia, de mémoire. Est-ce que c'est néanmoins un peu votre histoire, Maïsabé ?
C'est tout à fait mon histoire et l'anecdote que j'ai racontée, elle s'est passée exactement comme je l'ai racontée. Mais comme tout auteur, je suppose, j'ai beaucoup de mal à employer la première personne du singulier. J'ai écrit un autre récit sur la mort de mon père et je n'ai pas pu continuer. J'ai commencé à l'écrire, je n'ai pas pu continuer parce que j'employais la première personne. Et l'histoire s'est dénouée à partir du moment où je suis passée à la troisième personne, à elle, pour pouvoir parler de moi. C'est quand même étrange, mais c'est comme ça.
Donc cette petite fille qui a 6 ans sait déjà parfaitement lire et écrire et qui va éblouir sa maîtresse d'école qui pourtant au début n'est vraiment pas du tout bienveillante à son égard, c'était vous ?
C'était moi, oui. C'est le premier jour où je suis arrivée à l'école. Je suis arrivée, c'était une leçon de lecture. Donc d'abord on m'a mise au fond parce qu'on connaissait mon histoire. On connaissait l'histoire de mon père qui était mort, un moudjahid qui était mort sous la torture. Et donc, à l'époque, on était un petit peu écartés, on va dire, en tant qu'indigènes musulmans. Et je me suis trouvée en face d'un livre que je connaissais parfaitement et je savais très, très bien lire. Mon père m'avait appris à lire. Bon, selon la légende familiale, j'ai appris à lire à 4 ans. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais en fait, quand je suis arrivée dans cette école-là, je lisais déjà couramment. Le français.
Et l'arabe que vous parliez ?
Je parlais l'arabe, mais je ne lisais pas l'arabe parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'arabe n'était pas enseigné dans les écoles au temps de la colonisation. Moi, l'arabe, je l'ai appris plus tard avec mes enfants. Mmh. C'était une langue qui était exclue. Et je me souviens même qu'à l'école, lorsqu'on nous entendait parler arabe dans les cours de récréation, nous étions sévèrement réprimandés.
Donc, la petite fille qui lit et qui écrit grandit et elle lit Assia Djebar. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre de cette auteure que vous avez découvert ?
Ah oui, je me souviens très bien. C'était Les enfants du Nouveau Monde. Ce n'est pas son premier livre. Hein.
C'est peut-être le troisième en 1962, parce que le deuxième serait Les impatients.
Ah oui, La soif, les impatients. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Et je l'ai découvert par hasard dans une bibliothèque de quartier, ce qui était étonnant d'ailleurs. Et donc, je l'avais, comme j'étais une boulimique de lecture, je l'avais pris parce que j'étais étonnée de voir qu'une femme pouvait écrire. Dans notre milieu, dans notre famille, dans tout ce que je savais, les femmes n'avaient pas le droit à la parole publique. Et de voir que cette femme avait transgressé cette loi qui n'était pas une véritable loi, mais qui était en vigueur, en tout cas, dans les familles comme les nôtres, ça a été une espèce d'éblouissement, une révélation.
Sachant que effectivement, c'est ce que vous écrivez hein, dans votre essai Assia Djebar, femme écrivant. Voilà ce que vous dites, Maïsabé. Je vivais une adolescence difficile, silencieuse et tourmentée, déjà très consciente de ma condition de fille et tout aussi consciente du poids des interdits et des non-dits. Passionnée de lecture, je recherchais dans les livres, dans tous les livres lus et souvent avalés goulûment, non seulement le moyen d'échapper pendant quelques précieux instants à un quotidien perçu comme terne et oppressant, déjà, mais aussi et surtout dans l'espoir d'y trouver des réponses à d'incessantes interrogations, fermez les guillemets. Donc ça veut dire en effet, Maïsabé, que l'œuvre d'Assia Djebar, d'une certaine façon, vous a aidé dans cette adolescence difficile.
Tout à fait. Oui.
Vous a sauvé, peut-être, d'une grande solitude, en tout cas.
Elle m'a révélé un monde qui était tout à fait autre de celui qui était le mien. Nous vivions surtout entre femmes. Bon, mon père n'était pas là, donc les femmes, nous habitions un immeuble. Toutes les voisines qui voulaient passer quelques moments tranquilles, sans hommes, venaient voir ma mère qui savait lire et écrire, et donc qui écrivait des lettres, qui remplissait des documents pour ces femmes qui, pour la plupart, étaient analphabètes.
Elle était écrivain public, oui, d'une certaine façon.
Tout à fait. Et j'ai vécu au milieu de cet entourage féminin, uniquement féminin. Et je me suis abreuvée de leurs histoires, de leurs plaintes, de leur joie éphémère souvent et de leur tristesse beaucoup. Et des interdits qui leur étaient faits. Et en même temps, de ce qu'elles, elles-mêmes, se refusaient à accepter. Le mot « liberté » était un mot presque obscène. Pour une femme, à ce moment-là, au moment où nous étions en train, c'était un mot à ne pas prononcer, le mot amour également. Le mot amour était, enfin, en tout cas chez nous, dans la maison, ça ne se prononçait pas, on ne parlait pas d'amour. Et Assia Djebbar parlait de tout ça. Elle avait ouvert les portes, elle avait raconté l'intérieur, l'intimité de cette société, la mienne, la sienne, la nôtre, et elle l'a dévoilée, une espèce de dévoilement, et en même temps dans une langue magnifique. Et ça a été véritablement une révélation.
Et nous allons continuer d'en parler après cette pause musicale.
صاروا كرهنا من الحياة كاين يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاب في صاروا تلفنا لوقات كتلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيه قال له حفيت من المشيه وزاد له باري لي نعمل له كي سرج الحصان كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف صاروا تلفنا لقى
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'auteur Maïssa B, qui a publié Assia Djebbar, femme écrivain, aux éditions Chèvrefeuille étoilée, l'occasion d'un portrait croisé entre vos deux voix de la littérature algérienne, d'expression française et féministe. Un droit des femmes qu'Assia Djebbar s'est à la fois appliqué à elle-même, mais qu'elle a défendu aussi pour les autres dans son œuvre, et qui épouse à ce point la culture arabe que cette question est d'abord, et c'est tout à fait passionnant, abordée par l'architecture des maisons traditionnelles en Algérie, tel que vous nous le racontez ici dans cet essai. Est-ce que vous voulez bien, Maïssa B, nous expliquer ce qui est à la fois une métaphore et une réalité ?
Oui, j'ai beaucoup réfléchi sur justement cette volonté d'Assia Djebbar de franchir les seuils. C'est une fille qui était destinée, comme toutes les filles de son âge, de son époque, de cette société dans laquelle elle vivait, dans laquelle le sort l'avait jetée, comme on dit, qui était destinée à se marier jeune, à avoir des enfants et avoir une vie normale, entre guillemets.
Traditionnelle.
Et il se trouve que son père l'a emmenée à l'école et que l'école lui a ouvert des horizons, lui a ouvert des possibles, des lendemains possibles, ce qui était quand même extraordinaire. Quand on pense au nombre de femmes analphabètes à ce moment-là, c'est quand même une véritable exception. Et j'ai réfléchi sur, justement, sa démarche qui était tout à fait extraordinaire. Parce que quand on parle des auteurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, les pères fondateurs, qu'ils parlent de liberté, de femmes, de sexe, enfin tous les sujets leur sont autorisés. Ils n'ont pas l'impression de franchir un seuil, puisqu'ils sont aussi bien dedans que dehors, donc les hommes ne se posent pas ce type de problème. Et c'est en ça qu'on peut parler d'écriture féminine, puisqu'on parle très souvent de différence entre l'écriture masculine et en même temps l'écriture féminine. Et je me suis dit, comment a-t-elle eu l'audace et le courage de franchir les seuils? Parce que sa parole, quand je dis sa parole, c'est évidemment son écriture en même temps, nous ramène à l'intérieur des maisons. Elle a franchi le seuil. Mais par son écriture, elle nous ramène à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée la métaphore de l'architecture, de ces maisons mauresques qui sont toutes conçues de la même façon sur le plan architectural. Il y a une cour intérieure sur laquelle donnent toutes les chambres. Elles peuvent être habitées par une seule famille quand les gens sont aisés, qu'ils ont de l'argent, ou par plusieurs familles. Les chambres sont protégées par des rideaux, par des portes, et les hommes quittent les intérieurs toute la journée. Ils vont travailler, ensuite ils terminent la journée au café, et les femmes occupent la cour. Voilà. Et c'est donc l'intimité de ces femmes qui se trouve à l'intérieur des maisons. Assia Jabbar était destinée, d'ailleurs elle parle de ça, c'est dans un de ses textes que j'ai eu cette illumination, c'est vraiment une illumination. Et elle vivait avec sa grand-mère, ses tantes, ses cousines, etc. Et elle a participé à cette vie interne, d'interne, comme on parle d'internat. Et puis elle a réussi à franchir le seuil, grâce à quoi? Grâce à l'éducation qui lui a été donnée, grâce aux portes qui lui ont été ouvertes par son père. Sa sœur a suivi ses traces également. Et son père, qui était véritablement quelqu'un qui avait bouleversé les traditions à ce moment-là. Et les portes lui sont restées ouvertes, mais par son écriture et dans son écriture, elle revient inlassablement sur cette espèce de maison et ces cours fermés dans lesquels les femmes peuvent parler, s'exprimer, faire ce qu'elles ont envie de faire, danser, chanter, cuisiner, laver le linge, etc. Tout cet intérieur, toutes les affaires de femmes, comme on dit. Et c'est ça qui est très particulier dans l'écriture de cette femme et qu'aucun homme n'a réussi et ne réussira, je pense, à restituer de cette façon.
Effectivement, ce mode d'habitat dans les pays du Maghreb illustre ce cloisonnement entre la sphère intime et la sphère publique, d'où la femme est exclue. Et donc, Assia Jabbar écrit sur cette construction patriarcale et fait entendre les voix ensevelie, c'est vraiment son expression, telle que vous nous le racontez dans votre livre, comme si ces femmes étaient enterrées vivantes. Enfin, c'est ce que j'entends par ce mot ensevelie. J'écris à force de me taire, disait-elle. Sauf que le risque, c'est que quand on écrit, on s'expose. Et l'exposition, elle est encore plus transgressive pour une femme. Donc, c'était un double danger, un double risque qu'elle prenait.
Oui. Et il fallait avoir beaucoup de courage. Elle a écrit des livres dans lesquels, par exemple, elle parle des rapports de couple. Et depuis le début, elle parle d'amour, elle parle de couple, elle parle de ce que peut ressentir une femme pour un homme, etc. Elle est même arrivée à écrire un livre avec des passages extrêmement érotiques, ce qui était d'une audace sans nom. Bon, il a été écrit beaucoup plus tard, je pense que c'était dans les années 80, un livre qui s'appelle « Les nuits de Strasbourg », dont elle dit qu'elle ne l'a pu l'écrire que lorsque son père est mort, parce qu'elle n'osait pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait envie de dire. Donc elle a exploré, si vous voulez, toutes les facettes de la vie intime des femmes, au point de dépasser les frontières qui nous sont assignées. Nous, les femmes, on demande de la retenue, on demande, il ne faut pas transgresser les coutumes, etc. Et elle, elle est allée très loin dans cela.
Est-ce que Assia Djebbar était l'une des premières en Algérie à franchir...
La première.
La première.
La première, tout à fait, oui.
Et dans les années 60, donc oui, dans exactement. Une époque politique, agitée... Oui.
Il y a eu dans la vie d'Assia Djebbar un moment de silence, de grand silence. Elle est restée 10 ans sans écrire, sans pouvoir écrire. Elle est revenue sur ce silence, mais les explications qu'elle a données m'ont semblé un petit peu... Je ne sais pas, je me suis dit, elle a beaucoup de mal aujourd'hui à accepter l'image qu'elle donne d'elle-même. Et je pense qu'elle a dû travailler sur elle pendant tout ce temps-là pour pouvoir revenir et écrire l'un de ses plus beaux livres qui s'appelle « L'amour, la fantasia », qui n'a rien à voir avec l'intimité des femmes, justement, dans laquelle elle revient sur les différentes périodes de la colonisation française en Algérie, et qui est un livre magnifique et qui, dans lequel elle utilise toutes ses connaissances historiques, parce que de formation, elle était historienne. Et c'est vraiment un de ses plus beaux livres.
Et vous, Maïssa Bey, est-ce que vous l'avez ressenti, ce danger, quand vous avez commencé à écrire? Parce que vous avez publié très tôt aussi, je crois que votre premier texte date de 1996, Au commencement était la mer, si je ne me trompe pas.
C'est tout à fait ça, oui.
Est-ce que vous l'avez senti, ce risque d'écrire quand on est femme?
Très fort. Surtout dans ma famille, dans le personnage que je m'étais, dans lequel je m'étais coulée, quoi. C'est le personnage que j'étais. J'étais une mère de famille, professeure, j'avais tout fait comme il faut, quoi. Mère d'enfants, etc. Dans une petite, pas très petite, mais dans une ville quand même provinciale, dans laquelle je vivais, où j'avais un cercle social et tout. Et j'ai commencé à écrire un texte dans lequel il est question d'amour et de transgression. Et puis, il est question de mort, il est question d'avortement. Et je n'ai même pas réfléchi à tout ce que ça pouvait représenter pour moi en tant que personne, au moment où je l'ai écrit. C'est plus tard, en regardant, en étant confrontée aux réactions qu'il y a eu. Bon, ce livre est paru d'abord en France, hein. Il a mis du temps à paraître en Algérie, mais je pense qu'il aurait fait scandale s'il avait été publié tout de suite en Algérie, quoi. Et peut-être qu'il n'aurait même pas pu être publié, parce que je raconte un avortement qui se passe dans des conditions sordides, comme se passaient les avortements. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les avortements sont interdits encore en Algérie et qu'ils sont passibles de peines de prison, etc. Et pourtant, c'est l'histoire que j'ai choisi de raconter.
Est-ce que le fait d'écrire en français, justement, met quand même un peu à distance ce risque d'être assignée à une femme écrivant, ce qui peut être en effet un tabou pour certaines personnes encore?
Plus maintenant. Peut-être au début, mais il y a énormément de femmes qui écrivent en français, qui écrivent en arabe, qui écrivent même en anglais d'ailleurs. Non, il y a beaucoup de femmes. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que j'ai eu des réflexions de la part des gens qui me connaissaient dans la société dans laquelle je vivais, des réflexions qui me disaient qu'il y avait certaines choses qu'il ne fallait pas dire, pas dévoiler, que nous devions, protéger les silences de notre société. Ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises par des gens qui étaient d'ailleurs très proches de moi et qui m'ont fait le reproche de, je vais employer le mot, dévoiler. Dans le vrai sens du terme, de dévoiler l'intimité d'une société qui est repliée sur elle-même, la société féminine et la société algérienne en particulier. Donc, le fait d'écrire en français donne cette liberté-là aussi. Cette liberté, et en même temps, ça nous permet d'aller encore plus loin dans ce qu'on a envie de décrire. Je ne sais pas si, en arabe, j'aurais écrit de la même façon. Je ne sais pas, je me demande. Je n'ai jamais essayé, puisque je n'ai pas les capacités intellectuelles pour écrire des textes en arabe. Mais je me demande si j'avais été une écrivaine qui avait écrit en arabe, est-ce que j'aurais écrit les mêmes livres? Je ne sais pas.
Où est-ce que vous vivez exactement aujourd'hui, Maïssa Bey?
Je vis en Algérie, à Sidi Bel Abbès, dans l'ouest algérien, une ville de moyenne importance, on va dire, et je n'ai jamais quitté l'Algérie.
Et vous venez donc aujourd'hui pour participer à ce salon du Maghreb des livres, dans un contexte un peu particulier. Comment est-ce que vous vivez, vous, aujourd'hui, les tensions qui existent entre la France et l'Algérie?
Ça fait l'objet, en tout cas dans notre entourage, autour de nous, dans les journaux, etc. Ça fait l'objet de discussions. de très très grosses discussions. Et ces discussions, on les a toujours vécues. L'emprise du français, l'emprise de l'histoire de l'Algérie, elle a toujours été contestée par un certain nombre de personnes. Mais en même temps, je suis profondément choquée parce qu'il y a des personnes qui, des deux côtés, mais particulièrement ici en France, et je le dis, qui attisent la haine et qui attisent les dissensions.
Alors dans cette crise entre nos deux pays, il y a un point de fracture avec l'écrivain Boualem Sansal,
tout à fait,
qui a été arrêté donc en Algérie en novembre dernier, qui dans un premier temps, je rappelle qu'il a 80 ans, a été condamné à 5 ans de prison. Et puis là, il y a quelques jours, dans le procès en appel, le parquet algérien a requis 10 ans de prison.
Oui,
est-ce que vous voulez faire un commentaire, Maïssa Bé?
Moi, je connais bien Boualem Sansal. Et ça me fait douleur de savoir qu'il est arrêté. Maintenant, Je vais m'arrêter là, parce que c'est très, très compliqué, en tout cas pour nous, pour moi, de dire des choses qui me font mal pour lui et pour nous tous.
Donc c'est un sujet hautement sensible et douloureux.
Tout à fait, pour ceux qui suivent de près cette histoire, cette affaire-là, oui.
Donc le Salon du Livre... Le Maghreb du livre auquel vous participez, Maïssa Bé, avec des rencontres, des signatures. Vous avez envie d'aller à la rencontre de ce public français, maghrébin, amateur.
Et beaucoup d'Algériens, oui.
Et Algériens, bien
énormément
sûr.
Énormément d'Algériens qui viennent au Salon du Livre à l'Hôtel de Ville.
Oui, à l'Hôtel de Ville, à
c'est
Paris.
C'est une rencontre dans laquelle on voit énormément d'Algériens. Et ce qui fait plaisir, ce sont des Algériens qui sont soucieux de leur Algérie. Ils se l'approprient par les auteurs, par les écrits, par les discussions et les rencontres que l'on fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement important.
C'est une manifestation en effet majeure, d'ailleurs dont il sera aussi question dans l'émission Carrefour du Maghreb qui est diffusée samedi à 11h10 temps universel et 13h10 heure de Paris, où vous pourrez entendre Georges Morin, l'un des fondateurs.
Le président de l'association.
Et le président de l'association, puisque ça fait plus de 30 ans, il s'agit de la 31e
l'association Coup de Soleil,
édition. Encore un mot pour vous dire que ce week-end aussi, il y a une journée consacrée aux littératures africaines, Rive Noire Littérature. Ça se passe samedi 28 juin au Centre Houdiné à Paris, où là vous allez pouvoir retrouver tout un grand nombre d'auteurs du continent africain, Emlé Boum bien entendu, mais également Souliké, Charlie Neffa, Christian Eboulé, Bilguissa Diallo, Sami Tchak, plein d'auteurs de grande qualité. Merci beaucoup Maïssa Bé d'être venue nous parler et à la fois de ce livre mais surtout de cette grande femme, Assia Djebbar, femme écrivain, à laquelle vous avez donc rendu famage aux éditions Chèvrefeuille étoilées. Et je rappelle effectivement la publication de ce recueil magnifique, Enfance de fille, voix d'écrivaine, avec les textes d'une vingtaine d'autrices des parlements des écrivaines francophones, de Marie-Rose Abomo Morin à Fawzia Zouari, la fondatrice, en passant par Cécile Oumani ou encore Nadia Essalmi, et puis vous, évidemment, Maïssa Bé. Donc c'est un livre qui a paru aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Et puis, puisqu'on parle du Parlement des écrivaines francophones, à rappeler le recueil « Nos exils » qui a été publié aux éditions des femmes Antoinette Fouque, où là encore, nous avons des témoignages d'une vingtaine d'autrices. Ce ne sont pas les mêmes. Ici, par exemple, il y a Leïla Sebar, Pinar Selek, Ananda Devi, toutes ces femmes qui ont en commun l'écriture et la langue française, comme vous.
Et le féminisme.
Et le féminisme, évidemment.
Merci beaucoup pour
Merci
m'avoir
reçu. Merci à vous. Je dédie, comme je l'ai fait régulièrement ces dernières semaines, cette émission à Boualem Sansal, à Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont détenus en Iran depuis mai 2022.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.